les infos à Washington.
Avec vous Henri Francisque, midi à Ouagadougou, 13h à Kinshasa, bienvenue à notre journal. République démocratique du Congo, l'armée nationale congolaise fait état de violents combats ce jeudi entre ses éléments et des miliciens dans l'est du pays. Les affrontements ont lieu dans la localité de Salamabila, dans la province du Maniema, frontalière avec celle du Sud Kivu, où des miliciens Mai Mai Malaika ont attaqué les positions des FARDC, l'armée nationale congolaise. Difficile de vous donner un bilan car les combats sont en cours, a déclaré à l'AFP le capitaine Dieudonné Kasereka, porte-parole adjoint des FARDC dans la région. Par contre, retour au calme à Kisangani, chef-lieu de la province de la Tchopo, dans le nord-est du pays, où plusieurs personnes ont été blessées, dont une grièvement ces trois derniers jours, lors d'accrochages entre la police et des chauffeurs de taxi moto d'abord, puis lors d'échauffourées entre policiers et étudiants. Le point avec Raïssa Girondin.
Hier, des étudiants de l'Institut national de bâtiments et travaux publics se sont opposés à des policiers, paralysant les activités à Kisangani. Les policiers appuyés par des militaires ont usé de gaz lacrymogène sur les étudiants qui ont riposté par des jets de pierre. Plusieurs personnes ont été blessées, dont une femme qui a reçu une balle perdue à la tête et a été hospitalisée. Les violences ont commencé lundi soir, lorsqu'un chauffeur de taxi-moto a perdu connaissance après une chute en tentant d'échapper à un policier. Les conducteurs de moto-taxi ont alors jeté des pierres sur ces derniers. Par la suite, les étudiants ont accusé la police d'avoir tiré mardi du gaz lacrymogène sur leur salle de classe alors qu'ils passaient leurs examens. Mercredi soir, un calme apparent est revenu dans la ville où policiers et militaires mènent des patrouilles.
RCA, 12 personnes ont été tuées mercredi dans des violences qui ont fait suite à l'explosion d'une grenade dans le quartier musulman du PK5 de Bangui. C'est ce qu'a indiqué ce jeudi à l'AFP la Croix-Rouge centrafricaine. L'information a été confirmée par l'imam de la mosquée Ali Babolo du quartier commerçant et à majorité musulmane du PK5, théâtre de violences récurrentes depuis avril. La MINUSCA, la mission de l'ONU en Centrafrique, a annoncé l'ouverture d'une enquête pour situer les responsabilités dans ces événements. Au Cameroun, des séparatistes se battent pour l'indépendance des régions anglophones. La riposte du gouvernement camerounais a fait de nombreuses victimes, aussi bien chez les insurgés que chez les militaires. Des centaines de personnes sont toujours portées disparues depuis 6 mois. Moki Edwin Kinzeka s'est rendu à l'hôpital militaire de Yaoundé. Son reportage est rendu par Marie Benson.
Sans doute, le gouvernement camerounais n'est pas content parce que l'ambassadeur a déjà vu le ministre pour exprimer nos inquiétudes il y a quelques jours. Mais aussi, il a exprimé les mêmes inquiétudes en public. Donc peut-être le gouvernement du Cameroun n'est pas content. Mais Yaoundé, ils doivent comprendre qu'ils ne peuvent pas gagner cette guerre par la voie militaire. Ils ont oublié la loi Cohen, c'est-à-dire chaque guérilla a un partenaire à l'extérieur. Donc les anglophones, ils ont leur partenaire à l'autre côté de la frontière au Nigeria. Ce n'est pas le gouvernement du Nigeria, mais il y a des individus, des gens qui ont la même ethnie, qui aident ces guérillas. Donc la seule solution, c'est une négociation, c'est pas la guerre.
Apparemment, les autorités camerounaises sont aussi irritées du fait que l'ambassadeur ait appelé le président Paul Biya à considérer son héritage.
L'ambassadeur a raison. Paul Biya a été un bon président depuis longtemps et le Cameroun a gagné dans le domaine économique. Il y avait une expansion, une bonne gestion économique, utilisation des revenus du pétrole pour construire des routes, des centrales électriques. Donc, il a un très bon héritage, président Biya. Mais il peut gaspiller ça avec cette sale guerre de guérilla.
Mais est-ce qu'il revient à Washington de décider quand est-ce que le président Paul Biya doit quitter le pouvoir?
Bien sûr, non. C'est le peuple camerounais qui doit choisir dans les élections.
Les États-Unis apportent un appui au Cameroun sur le plan de la sécurité. Que pouvez-vous nous en dire?
Oui, bien sûr, parce que il y a la menace islamiste dans le nord-est du pays par la Boko Haram dans la région de Lac Tchad. Pour cette guerre-là, nous sommes complètement solidaires avec le Cameroun. C'est la même lutte, mais ça n'a rien à voir avec tout ce qui se passe dans le Cameroun anglophone. C'est une autre paire de manches.
Il s'agissait plutôt d'une interview de Herman Cohen, l'ancien secrétaire d'État adjoint américain pour l'Afrique, qui parlait des relations entre les États-Unis et le Cameroun au micro de Timothée Donangmaï.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Le président rwandais Paul Kagame, reçu mercredi à l'Élysée pour la première fois depuis 2011 par Emmanuel Macron, a convié son homologue français au Rwanda, où il serait le bienvenu, a annoncé la ministre rwandaise des Affaires étrangères Louise Mushikiwabo. Alors que les relations entre Paris et Kigali restent très tendues depuis le génocide de 1994 au Rwanda, les deux chefs d'État se sont longuement entretenus mercredi. Cette visite serait la première du président français au Rwanda depuis celle de Nicolas Sarkozy en 2010, qui avait admis à Kigali des erreurs d'appréciation de la France à l'époque du génocide. Emmanuel Macron a fait un geste envers Kigali en annonçant son soutien à la candidature de Louise Mushikiwabo à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie, l'OIF. Les précisions de Yakuba Ouedraogo.
La ministre des Affaires étrangères du Rwanda a toutes les compétences pour exercer cette fonction de secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie et je la soutiendrai, a déclaré le président Emmanuel Macron. Le mandat de l'actuel responsable de l'OIF, la Québécoise Michaëlle Jean, expire à la mi-octobre. Le chef de l'État français s'est exprimé aux côtés de son homologue rwandais, président en exercice de l'Union africaine. Paul Kagame a été convié à l'Élysée pour la première fois depuis 2011 à l'occasion d'un sommet international sur la high-tech. Les relations entre Paris et Kigali sont tendues depuis le génocide de 1994 au Rwanda. Pour le président français, je cite, « Il ne s'agit en aucun cas de sous-estimer les difficultés du passé, mais au contraire d'assumer cette complexité et la surmonter. » M. Macron a aussi annoncé qu'il va se rendre au prochain sommet de l'Union africaine début juillet à Nouakchott, en Mauritanie.
La lutte contre les djihadistes au Sahel, le secrétaire permanent de la force militaire G5 Sahel, Maman Sidikou, a réclamé mercredi au Conseil de sécurité de l'ONU un mandat renforcé pour cette unité anti-djihadiste naissante. Une demande aussitôt rejetée par les États-Unis qui refusent toute implication accrue de l'ONU. À terme, la force G5 Sahel, formée de troupes du Niger, de Mauritanie, du Tchad, du Mali et du Burkina Faso, doit comprendre 5000 militaires. Dans un communiqué adopté mercredi soir, le Conseil de sécurité appelle les 5 membres fondateurs du G5 Sahel à lui faire atteindre sa pleine capacité opérationnelle dès que possible et aux donateurs de débloquer leurs fonds pour accélérer sans retard la pleine aptitude de la force à agir. Au Burkina Faso, on en sait un peu plus sur l'opération de traque des terroristes présumés mardi à Ouagadougou, la capitale. Les 4 assaillants prévoyaient une attaque sur la capitale burkinabé au mois de juin. 3 ont été abattus et le 4e malien a été capturé. La procureure du Burkina Faso a fait ses révélations hier lors d'une conférence de presse. Compte rendu de Lamine Traoré, correspondant de VOA Afrique sur place.
Au lendemain de l'opération antiterroriste menée à Rayongo, en périphérie de Ouagadougou, la procureure du Faso, Maïsa Sérémé, a révélé que 2 Burkinabés et 2 Maliens souhaitaient attaquer la capitale du pays des hommes intègres.
Les 4 individus qui occupaient la villa depuis le 10 mai 2018 sont de nationalité burkinabé et malienne.
Le cerveau présumé du groupe, l'un des Burkinabés, Abdoulaye Sabadogo, alias Abdallah, est impliqué dans l'attaque d'une brigade de gendarmerie dans l'ouest du pays en octobre 2015, a annoncé la procureur qui précise que les présumés terroristes avaient un plan bien orchestré.
Il est établi qu'ils projetaient une attaque dans la capitale courant mois de juin 2018 contre des cibles importantes.
Selon Maïsa Sérémé, l'enquête révèle un lien entre les occupants de la villa et les assaillants de la double attaque du 2 mars dernier à Ouagadougou contre l'état-major et l'ambassade de France. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Nigeria, des femmes ont été violées par des soldats et des miliciens en échange de nourriture et des milliers d'autres sont mortes de faim dans les camps de déplacés dans le nord-est du pays où sévit le groupe djihadiste Boko Haram. C'est ce qu'affirme un rapport d'Amnesty International publié ce jeudi. Le document accuse l'armée nigériane et la milice engagée à ses côtés contre Boko Haram d'avoir séparé les femmes de leurs époux et de les avoir enfermées dans des camps annexes isolés où elles sont violées. Le rapport, qui s'appuie sur plus de 250 entretiens, porte sur les camps établis dans 7 villes de l'État de Borno, la région la plus touchée par l'insurrection. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.